J'ai été présenté comme étant suisse. Effectivement, je suis né, j'ai grandi en Suisse. Mon père est franc-comtois, donc j'ai aussi un peu de sang français. Mais je suis citoyen du ciel avant tout, n'est-ce pas? Donc, je m'appelle Philippe Boulanger. J'ai pas choisi. Mais vous savez que même si en étant jeune, j'ai eu quelques blagues au sujet de mon nom de famille, vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de hasard, il est un Dieu de but. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 16, verset 4, qu'il a tout créé avec un but. Et vous savez que même le nom a une signification particulière et symbolique. Dans la culture juive, le nom est très important, parce que Jésus veut dire sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sauvés, n'est-ce pas? Donc le nom Boulanger, tout simplement, c'est en lien avec ma vocation céleste, c'est en lien avec ma destinée, parce que je suis appelé de Dieu à nourrir son peuple avec le pain de vie. Donc, je suis là pour vous servir ce matin. Je vais prier et après, on va rentrer dans le vif du sujet et en espérant que mon pain soit bien cuit. Père éternel, je te remercie pour cette occasion, pour cette opportunité de pouvoir exercer le ministère dans cette église de la Bonne Nouvelle. Père, j'honore les pasteurs de cette assemblée, j'honore les bergers de cette assemblée, j'honore ses membres et tous les invités, que nous puissions avoir un cœur ouvert. La Bible nous dit que le cœur de Lydie était ouvert à la prédication de Paul et que cette prédication soit ointe du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus était oint, il allait de lieu en lieu et il y avait un esprit de grâce qui reposait sur lui. Merci Père pour cette onction du Saint-Esprit qui repose sur la parole de Dieu. Oh, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Et la parole de Dieu vient confirmer, le Saint-Esprit vient confirmer la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Père, je prie dans ce lieu pour un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, selon la prière de Paul aux Éphésiens en chapitre 1, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par une confidence. Lorsque j'ai commencé à prêcher et enseigner l'Évangile en 2005, c'était dans le pays du Mozambique. J'avais 2 ans dans le Seigneur, donc j'ai rencontré le Seigneur lors de ma première année à la faculté lorsque j'étais étudiant en Suisse en journalisme et communication. Et en 2005, pendant 2 ans, ma vie chrétienne n'a pas grandi. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'importance d'être attaché à une église locale. Et pendant 2 ans, après une expérience très forte avec Dieu, je n'ouvrais pas ma Bible. Ma Bible prenait la poussière. Je n'étais pas attaché au corps de Christ local et je n'ai pas grandi. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, OK, soit je retourne dans le monde, soit je mets vraiment les deux pieds dans le royaume de Dieu, mais cette situation d'entre deux ne peut plus durer. Alors j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis pendant 6 mois et je suis parti en Afrique du Sud avec une organisation qui s'appelle Jeunesse en Mission, peut-être que vous connaissez. Et je suis allé faire une école de formation de disciples. Et pendant 3 mois, le but, c'est de connaître Dieu. Et pendant 3 autres mois, le but, c'est de le faire connaître. Donc pendant 3 mois en Afrique du Sud, c'était la formation. Et après, nous avons été lancés comme ça dans le champ missionnaire au Mozambique. Et j'ai partagé pour la première fois la parole de Dieu dans une petite église, une petite hutte. On a mangé de la chèvre après ce premier message. Et donc, c'était vraiment une expérience forte. Et tout ça pour vous dire que j'ai aimé faire ça. Je me suis dit, mince, j'ai aimé partager la parole de Dieu. Ça, c'était en 2005, c'était la toute première fois. Mais l'erreur que j'ai faite au début, lorsque j'ai commencé à exercer le ministère, à prêcher et enseigner l'évangile, c'est que j'étais toujours à la recherche de la dernière révélation. Je voulais toujours apporter quelque chose que les gens n'avaient jamais entendu auparavant, peut-être pour montrer à quel point j'avais cherché Dieu, ou peut-être pour montrer à quel point j'étais spirituel. Et aujourd'hui, 12 ans plus tard, donc mon premier message date de 2005, aujourd'hui nous sommes en 2017, et donc en janvier 2011, je suis rentré à plein temps dans le ministère, et en janvier 2015, j'ai été ordonné donc en tant que pasteur. Et ce que j'ai fait au début, en 2005, et que je ne fais plus aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction aujourd'hui que le peuple de Dieu et moi-même, nous avons besoin d'être enracinés et fondés dans les doctrines et les enseignements principaux du Nouveau Testament. Et c'est dans ces doctrines et ces enseignements principaux du Nouveau Testament que nous avons besoin d'avoir de la révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Et pourquoi? Parce que les épîtres ont été écrites à l'Église. Et je réalise que dans les doctrines fondamentales, dans les enseignements fondamentaux, il y a finalement assez peu de révélations. Raison pour laquelle, ce matin, je vais consacrer cette prédication et ce message sur un sujet central, fondamental, essentiel des écrits de Paul, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification. Pourquoi est-ce que c'est central, fondamental et essentiel ? Parce que lorsque vous lisez toute l'épître de Paul aux Romains, le thème central, le thème fondamental et le thème essentiel de l'épître de Paul aux Romains, c'est la justification. Lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Galates, le thème central, le thème essentiel, le thème fondamental, c'est la justification. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la déduction que dans le monde francophone, il y a à peu près 95% des personnes qui n'ont pas vraiment compris en quoi consiste cette justification. Raison pour laquelle je vais consacrer le temps qui m'est accordé et je vais vous parler de quatre piliers qui sont vraiment la base de notre justification. Quatre piliers qui sont la base de notre justification. Pourquoi quatre piliers ? Parce que regardez votre chaise est composée de quatre pieds. Votre chaise est composée de quatre piliers. Quatre piliers, ça veut dire que c'est quelque chose de solide. Et il n'y a pas un pilier qui est plus important que l'autre, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons besoin de grandir et d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans ce sujet qu'est la justification. Et ce matin, je vais être pratiquement seulement dans le livre de Romains. D'accord ? Donc, ça s'intitule, si vous prenez des notes, les quatre piliers de notre justification. Pour être très franc avec vous, il est vrai que le terme de justification en tant que tel, ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. À part si vous êtes dans le domaine du droit ou dans la magistrature, mais sinon dans la vie de tous les jours, on ne dit pas « ouais, ben, j'ai été justifié aujourd'hui » ou alors « j'ai utilisé le mot justification aujourd'hui ». Et ça paraît un petit peu un mot barbare, c'est-à-dire un mot un petit peu compliqué à comprendre, mais vu que c'était central en Romains et c'était central en Galates, combien d'entre vous pensez que ça doit être central dans la vie d'un chrétien ? Sinon, Paul n'aurait pas consacré toute l'épître aux Romains et toute l'épître aux Galates sur le sujet de la justification. Donc, qu'est-ce que la justification ? Alors, certaines fois, pour définir un terme, il est bon de comprendre son contraire. Quel est le contraire de la justification ? Tout simplement, le contraire de la justification, ça serait la condamnation. La condamnation. Donc, on peut opposer la justification à la condamnation. C'est simplement l'antonyme. L'antonyme de justification serait condamnation. L'antonyme de condamnation serait justification. La raison pour laquelle c'est quelque chose que on n'utilise pas tous les jours, c'est que ce mot justification dans le naturel, il appartient au langage du droit. Alors peut-être que le maître Gualdi va avoir une plus grande révélation que les autres, mais ce terme de justification, il appartient au langage du droit. Nous devons comprendre, avant tout, qu'il n'y a pas de justification ou son contraire de condamnation sans une justice. En France, quelqu'un ne peut pas être justifié ou ne peut pas être condamné s'il n'y a pas une justice. Donc, avant de comprendre la justification, nous devons comprendre qu'il y a une justice. Mais avant de comprendre qu'il y a une justice, nous devons comprendre que la justice ne peut pas être exercée s'il n'y a pas une loi. La justice française ne peut pas exercer la justice sans un cadre légal, sans un cadre légal, sans la loi française. Donc, il y a une loi française. Cette loi française, la justice française est censée la faire respecter. Si j'enfreins la loi française, alors la loi française peut me condamner. Mais si je peux prouver que je suis innocent, alors la loi française, et si la justice est appliquée, alors je pourrai être justifié. Je vous explique ceci dans le naturel pour comprendre. Maintenant, je vais basculer dans le spirituel. Jésus faisait souvent ça. Il expliquait quelque chose dans le monde naturel pour nous expliquer quelque chose dans le monde spirituel. Quel est le transfert avec le monde spirituel ? Alors, spirituellement, le parallèle, il est suivant. Nous devons comprendre, avant tout, pour pouvoir comprendre la justification ou la doctrine de la justification, l'enseignement de la justification, que avant tout, de par sa nature et son caractère, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est un pilier droit. Il a une droiture, il a une justice, il est juste. Non seulement il est juste, mais il a une justice. Et pour qu'il puisse exercer sa justice, pour qu'il puisse rester juste, il a donné une loi.
Exode chapitre 20, la Bible nous dit qu'il a donné les 10 commandements. Donc, Dieu est juste et il a donné une justice. Mais pour qu'il puisse être juste et qu'il puisse exercer sa justice divine, au préalable, il a dû donner une loi. La loi de Dieu. Alors, on va faire un petit bad news, good news. On est dans l'église, la bonne nouvelle. Donc, laissez-moi d'abord vous donner la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que la loi de Dieu nous condamne tous. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons tous transgressé ou péché ou fauté envers la loi de Dieu. Si Dieu, qui est juste, exerçait son jugement par rapport à cette loi, malheureusement, la sentence ou ça serait la condamnation pour nous. S'il veut garder sa justice. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais on est dans l'église de la bonne nouvelle. Et l'église et l'évangile est toujours une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La mauvaise, c'est que nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Donc si Dieu exerçait sa justice, il aurait pu nous condamner et rester entièrement juste envers sa loi. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous avons transgressé sa loi, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour transgresser la loi? Jésus dit, si tu dis imbécile à quelqu'un, si tu le traites de raca, tu es déjà condamné par la loi de Dieu. Donc autant vous dire que nous l'avons tous transgressé. Mais la bonne nouvelle, tout le monde dit la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être justifiés. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être justifiés. Nous sommes tous au préalable dans cette situation où j'ai enfreint la loi de Dieu. De la même manière, si j'enfreins la loi française, la justice française va me condamner. Donc, envers la loi de Dieu, j'ai été un transgresseur de la loi de Dieu. Donc, j'ai la loi de Dieu où Dieu aurait pu me condamner. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux être justifié. Quels sont les 4 piliers de cette justification? En d'autres termes, comment pouvons-nous passer de condamner à justifier? Ça, c'est la question que je vais résoudre. Comment pouvons-nous passer de condamner envers la loi de Dieu en étant maintenant justifié? En règle, justifié, ça veut dire en règle avec l'ultime autorité. Si la loi française vous justifie, vous êtes en règle avec la loi française. Si la région vous condamne, mais que la nation vous justifie, vu que la nation est une plus haute autorité que la région, vous serez justifié. Lorsque la plus haute autorité vous justifie, il n'y a plus personne qui peut vous condamner. Je vais vous montrer comment Dieu nous a justifiés, et vu qu'il est la plus haute autorité, plus personne d'autre peut vous condamner. Nous sommes passés de... Donc je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Nous sommes passés, en Christ Jésus, de condamner à justifier. Ah, et quand vous comprenez ça, les gens me disent, mais Philippe, ton autorité spirituelle, elle vient d'où? Je leur dis toujours, j'ai simplement eu une révélation de la justification. Les chrétiens parlent toujours, ah, le diable a des forteresses contre moi, etc. Il y a des forteresses. Mais quand est-ce que les chrétiens vont avoir une forteresse contre le diable? Et quand tu comprends la justification, tu as une forteresse contre le diable, tu as un bastion contre lui et tu commences à faire des dégâts dans le monde spirituel, tu commences à être craint par ton adversaire et l'ennemi de ton âme. Comment sommes-nous passés de condamner à justifier? Oui, j'ai transgressé la loi de Dieu. Oui, j'ai péché. Oui, tous mes péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux être justifié en Christ. Et lorsque la plus haute autorité qui est Dieu, il n'y a pas plus haut que Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu, lorsque cette autorité-là te justifie, il n'y a aucune autre autorité inférieure qui peut te condamner. Oh, il va y avoir une percée. Il va y avoir une percée, je vous dis. Ce sujet, il est central dans les écrits de Paul. Il était central dans la réforme. C'est la révélation des réformateurs, la justification par la foi. Lorsque la réforme est arrivée, la réforme protestante, c'était quoi? La redécouverte de la justification. Pas par les œuvres, pas par les indulgences, pas par les efforts. Par les 4 piliers que j'aimerais vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 4 piliers? Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Le premier pilier qui nous fait passer de condamné à justifié. Ou si vous voulez un langage plus simple, de coupable à innocent. Voilà, de coupable à innocent. Est-ce que vous savez qu'en Christ, vous êtes innocent maintenant ? Que votre casier judiciaire, il est vierge et il est tracé ? Romains chapitre 5, vous êtes là au verset 9 ? Le premier pilier qui nous justifie, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ces quatre piliers sont dans le livre de Romains. Je vous ai dit que le thème central de Paul, c'était la justification. Romains 5, 9, est-ce que vous êtes là ? À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par quoi ? Par quoi ? Par quoi sommes-nous justifiés selon Romains 5, 9 ? Par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère ? Par lui de la colère. Ce sang qui a coulé dans n'importe quelle loi, lorsque la loi est violée, lorsque la loi est transgressée, écoutez bien, un jugement doit tomber, une sentence doit tomber, quelque chose doit être prononcé si la justice veut garder sa justice. Si Dieu veut garder sa justice et si Dieu veut garder sa loi, il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit il condamne le transgresseur, soit il condamne quelqu'un d'autre. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas bu la coupe de nos transgressions. Et Ésaïe nous prophétise que le châtiment ou le jugement de Dieu qui nous donne la paix à nous, il est tombé sur lui. Quelle est la preuve qu'il a reçu le châtiment et la punition de Dieu ? C'est la croix. Parce qu'à la croix, le sang de Christ a coulé. Dieu n'aurait pas pu nous justifier sans la croix et sans le sang. Parce que s'il nous avait justifiés sans que quelqu'un d'autre paye à notre place, alors il aurait perdu sa justice. Imaginez un instant si quelqu'un transgresse la loi française et la justice ne condamne pas cette personne alors qu'elle a tous les faits, mais la justice ne condamne pas cette personne, vous allez crier au scandale. Et ce qui révolte le plus les gens aujourd'hui, c'est l'injustice. Si Dieu n'avait pas fait retomber sur quelqu'un. Si Dieu nous avait justifiés sans que quelqu'un paye pour nos transgressions, il aurait violé sa loi, il aurait violé sa justice. Et donc le sang de Jésus, c'est la preuve irréfutable, la preuve évidente que Dieu nous a tant aimés déjà, mais c'est la preuve évidente que quelqu'un d'autre a bu la coupe de la condamnation à notre place. Il avait seulement deux options. Soit son jugement tombait sur nous, soit il tombait sur quelqu'un d'autre. Et il est tombé sur celui qui n'avait jamais transgressé la loi de Dieu. Mais écoutez bien, s'il voulait garder sa loi et sa justice, son jugement devait obligatoirement tomber. Est-ce que ça a du sens ce que je raconte ? Si Dieu voulait garder sa loi et sa justice et sa droiture, si sa loi a été transgressée, alors son jugement doit automatiquement tomber. Il avait seulement deux options, soit sur nous, soit sur Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a pris à notre place. Et le sang de Jésus est la preuve irréfutable qu'il a payé pour nos transgressions. Vous voyez que Dieu n'aurait pas pu juste fermer les yeux pour nos péchés. Ah, t'as péché, non, mais je ferme les yeux. Non, je ferme. Il n'aurait pas pu faire ça. Sinon, il aurait transgressé sa propre nature et son propre caractère. Il est droit. Il est juste. Il a une justice. Il a une loi. Quand on la transgresse, quelque chose doit tomber. Lui qui avait la paix avec Dieu a reçu la punition de Dieu. Nous qui méritions que le couperet tombe sur nous, nous avons en retour la paix avec Dieu. Le deuxième pilier, toujours dans le livre de Romains, c'est la résurrection de Jésus. Le deuxième pilier qui nous permet de passer de condamné à justifié. Mais quand vous comprenez que vous êtes justifié, vous vous positionnez différemment dans le monde spirituel. Si la loi française vous justifie, vous dites, hé, quelqu'un essaye de vous condamner, hé, la loi m'a justifié. Je marche avec assurance. Lorsqu'on comprend qu'on est justifié par Dieu dans le monde spirituel, vous allez marcher avec la cuirasse de la justice. Vous allez marcher avec fierté et vous allez laisser cette cuirasse de la justice luire et éblouir tout le reste. Mais si cette cuirasse de la justice n'est pas en place parce qu'on n'a pas compris la justification, alors nous sommes encore exposés aux traits enflammés. Est-ce que votre cuirasse est bien en place? La deuxième chose ou le deuxième pilier qui nous a fait passer de condamné à justifié devant Dieu, c'est la résurrection de Jésus. Je vais lire le verset 25 de Romains 4. Romains 4, verset 25. Lequel, si vous prenez le contexte, ça parle de Jésus. Lequel? Alors là, on a la preuve aussi du premier pilier. Il a été livré pour nos offenses. Vous voyez tout ça? Vous êtes d'accord qu'il a été livré pour nos offenses? Lui n'avait pas offensé Dieu, nous avions offensé Dieu. Mais il a été livré pour nos offenses. Ça, c'est le premier pilier, une répétition de ce premier pilier. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité pour notre... Est-ce qu'il est ressuscité pour sa justification à lui? Non. Jésus n'avait pas besoin de ressusciter pour sa propre justification. Il était juste devant Dieu. Il était en règle devant Dieu. Il avait une assurance devant Dieu. Il avait la confiance devant son Père. Mais il est ressuscité pour notre justification. Petite question de grammaire française, même si je suis suisse, je connais un petit peu la grammaire française. Le « pour » en français, c'est une conjonction de but. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, elle a un but, et ce but, c'est notre justification. Tout le monde est là? C'est pour ça que Paul, il dit, mais si vous ne croyez pas en la résurrection, votre foi est vaine. Comment peut-on prétendre être chrétien sans croire en la résurrection de Jésus? La base de l'évangile, c'est la crucifixion du Seigneur, l'ensevelissement du Seigneur, la résurrection du Seigneur, l'ascension du Seigneur, l'intronisation du Seigneur à la droite de Dieu. Ça, c'est la totalité de l'évangile. Mais la résurrection en fait partie. Et Paul dira, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Je ne suis pas en train de dire que la crucifixion n'est pas importante. Je suis en train de dire que la crucifixion est un passage obligé de la rédemption, mais que la rédemption continue et qu'il est ressuscité pour notre justification. Christ est mort, Paul dit. Bien plus, il est ressuscité. Waouh ! Il est en train de mettre l'emphase plus sur la résurrection que sur la crucifixion. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité pour notre justification. Lorsque j'habitais à Cannes-la-Bocca, nous avons fait 3 ans à Cannes-la-Bocca avant de revenir sur Nice, je lisais ce passage-là. Et je me suis dit, Philippe, mon Dieu, si Jésus est ressuscité pour ta justification, tu ferais mieux de comprendre ce que ça veut dire. Parce que je croyais en la résurrection du Seigneur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle impliquait concrètement, cette résurrection. Et ici, il dit, pour ma, il est, est-ce qu'on peut dire ça? Il est ressuscité pour ma justification. Il est ressuscité pour ma justification. Alors je me suis dit, je vais chercher dans un dictionnaire, Larousse ou Petit Robert, la signification de justification. Vous savez ce que j'ai trouvé? Lorsqu'on se justifie, on essaye de prouver son innocence. La justification, c'est le fait de prouver son innocence. Exemple, j'ai grandi avec 2 frères. On est pris dans une histoire avec nos parents. Tout d'un coup, je suis accusé, je vais dire, non, c'est pas moi, c'est lui. Qu'est-ce que je fais? Je me justifie, c'est-à-dire que je suis en train de prouver que je suis innocent et que quelqu'un d'autre est coupable. Ça, c'est se justifier ou la justification. Est-ce qu'à la lumière de cette définition, on peut replacer ça dans le contexte de Romains 4, 25 et relire ce texte pour comprendre qu'est-ce que vraiment Paul veut dire ici? Vous êtes prêts? Lequel, en parlant de Jésus, a été livré pour nos offenses. Ça, on a déjà bien établi avec le pilier 1, le sang de Jésus qui a coulé pour la rémission de nos péchés. Mais deuxièmement, il est ressuscité pour notre justification. Je vais reprendre le mot justification avec la définition « prouver l'innocence ». Vous êtes prêts pour ça? Lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour prouver notre innocence. Il est ressuscité pour prouver notre innocence. Donc maintenant, Dieu qui est juste, Dieu qui est saint, Dieu qui est droit, Dieu qui a une justice, Dieu qui a une loi, il peut taper avec son marteau sur le tribunal en disant, toi tu es en Christ, tu as cru en sa résurrection, non coupable, non coupable, non coupable, non coupable, innocent, 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 innocent. Il est ressuscité pour prouver votre innocence. Il est ressuscité pour prouver votre innocence. Il est ressuscité pour prouver votre innocence. Vous pouvez vous présenter devant Dieu sans un complexe d'infériorité, sans culpabilité, comme si vous n'aviez jamais péché, parce qu'il est ressuscité pour votre justification. Il est ressuscité pour prouver que devant lui maintenant, vous êtes lavé de tout péché et vous êtes innocent. Mais ça a une différence quand vous savez que vous avez été innocenté. À l'époque, quand je ne payais pas mes cotisations de tennis et que je voyais la trésorière du club, vous pensez que je me pointais au club en frottant le grillage, ouais. Oh, il y a la trésorière, je n'ai pas payé mes cotisations. Je me sentais coupable. Quand vous vous sentez coupable ou culpabilisé ou condamné, vous n'avez aucune assurance. Mais lorsque vous savez que vous avez été justifié, lorsque vous savez que vous avez été innocenté, lorsque vous savez que quelqu'un a prouvé votre innocence, vous marchez avec la cuirasse de la justice. Et un jour, la faculté donc, de Neuchâtel, là où, ils m'ont dit, Monsieur Boulanger, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en règle avec votre semestre? Ils ont remis en question si j'avais payé ou pas. Vous savez quoi? Je suis allé rechercher la facture et j'ai dit, regardez ici, c'est payé. Ok. Très bien, vous êtes en règle avec l'administration de la faculté. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Nous pouvons nous présenter devant Dieu avec confiance, avec assurance, parce que son trône est devenu un trône de miséricorde et de grâce pour être secouru de nos besoins. Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez en la résurrection? La résurrection, ce n'est pas si on en a envie ou pas. C'est le fondement légal de notre justification. Si vous voulez, une autre définition de la justification, c'est la suivante. C'est l'action d'attribuer à l'homme la justice parfaite de Christ. Certains, ça va étirer un peu. La position que Jésus avait sur la terre avec son Père céleste, si la justification, c'est l'action d'attribuer à l'homme la justice parfaite de Christ, s'il m'a donné sa justice, il me l'a donnée, ça veut dire que je peux me positionner devant mon Père Céleste comme Jésus lui-même se positionnait devant son Père Céleste. Mais ça, je peux vous dire que au niveau de l'autorité spirituelle, ça bouge après. Quand vous comprenez ces choses, si j'ai un péché à confesser, je confesse. Et il est fidèle et juste pour me purifier de toute iniquité. Et bouffe, on passe à autre chose. Mais cette assurance dans le monde spirituel. Quand vous êtes attaqué, est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous avez votre cuirasse? Vous avez déjà imaginé un soldat romain qui part au combat sans sa cuirasse? Combien de chrétiens sont sans leur cuirasse? Parce que cette justification, elle doit être non seulement saisie avec l'intellect, mais elle doit être une révélation du cœur. Une révélation du cœur. Une révélation du cœur. Le sang nous a justifiés. Il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pas pour prouver son innocence à lui. Il est ressuscité pour prouver mon innocence à moi. C'est moi qui avais transgressé la loi de Dieu. Et le troisième pilier, c'est la grâce de Dieu. Écoutez bien. Cette justification, aucun être humain ne peut passer de condamnation à justification par ses propres œuvres. Aucun être humain ne peut être justifié devant Dieu parce qu'il a fait une béa. C'est une grâce. C'est un don. C'est un cadeau. Est-ce que vous savez que le salaire du péché, c'est la mort? Si on essaie d'être justifié par nos œuvres ou par nos bonnes actions, la Bible nous dit que ça nous mène à la mort. Le seul moyen d'être justifié devant Dieu, c'est par sa grâce. Laissez-moi vous lire le texte, parce que vous me regardez vraiment l'air perplexe. Est-ce que ça a du sens ce que je raconte ce matin ? Romains 3, versets 23 et 24. Un texte très connu, surtout quand on partage l'évangile avec les gens. Romains 3, 23. Car tous, combien tous ? Tous, hein ? Ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont... Comment ? Gratuitement justifié. Donc cette justification, écoutez bien, pour l'homme, elle est... Attendez maintenant. Elle est gratuite. Comment avons-nous été justifiés gratuitement ? Par quel moyen ? Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà comment les gens pensent être justifiés aujourd'hui. Moi qui suis suisse, regardez comment les gens suisses pensent être justifiés devant Dieu. J'ai payé mes impôts, j'ai coupé mon bois et j'ai tondu mon gazon. Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu ne va pas me justifier. J'ai payé mes dettes, j'ai payé mes factures, j'ai été quelqu'un d'honnête, etc. Et ils pensent que ce sont leurs œuvres, leurs actions qui vont les justifier devant Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'on essaye de se justifier par soi-même, c'est comme un vêtement souillé. Il est impossible d'être justifié par ses propres œuvres. Je peux seulement être justifié en recevant le cadeau de Dieu. Et puisque c'est un cadeau, c'est gratuit. Tout le monde dit gratuitement. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Dieu vous offre la justification gratuitement? En général, dans un tribunal, si vous n'allez pas être condamné, quelqu'un d'autre va payer. Si la justice veut rester juste. Est-ce qu'un cadeau, c'est gratuit? Attention, c'est une question piège. Qui pense que je suis en train de les piéger? Levez la main parce que je suis en train de vous piéger. Écoutez bien, cette justification, elle est gratuite, c'est vrai ou pas? Question. Pour qui un cadeau est-il gratuit? Oh, qui c'est qui a dit ça? Celui qui le reçoit. En revanche, est-ce que celui qui offre le cadeau, est-ce que c'est gratuit pour la personne qui offre? Retenons ceci. C'est juste, imaginez, j'offre une bague à ma femme, mais en fait je l'ai volée à la bijouterie. Donc je ne l'ai pas payée, mais je lui offre gratuitement. Ça ne fonctionne pas. Dieu ne peut pas nous offrir la justification sans que quelqu'un d'autre paye. Sinon il l'aurait volée. Ouf, ça c'était fort. Si je veux donner la bague à ma femme comme cadeau, je dois l'acheter à la bijouterie. je dois la payer au préalable. Si Dieu nous avait offert sa justification sans que Christ paye pour nous, il l'aurait volée. Mon point est le suivant. Cette justification, elle est gratuite pour l'homme ou la femme qui la reçoit. Attention maintenant. Mais elle a tout coûté à celui qui la donne. Écoutez bien, cette justification, elle a tout coûté à celui qui l'offre. Dieu ne pouvait pas nous justifier sans la crucifixion de son Fils bien-aimé. C'est ce que la Bible appelle une grâce. Mais attention, la grâce, c'est pas quelque chose. Je sais que je vous ai bien enseigné dans la grâce ici. La grâce, c'est pas quelque chose de bon marché. Hein. C'est pas quelque chose de cheap. C'est quelque chose qui a tout coûté au Seigneur Jésus. C'est une faveur. Aucun être humain ne peut se justifier devant Dieu par ses bonnes actions ou ses bonnes œuvres. La seule chose qu'il peut faire, c'est recevoir gratuitement le cadeau de Dieu. Mais vous savez, comme moi, que surtout en Occident et en Europe, nous avons grandi comme ceci. Si tu es à l'heure, tu auras ta promotion. Si tu as une bonne note, tu auras un cadeau de Noël, etc., etc. Notre éducation a été façonnée par le mérite. Et quand on vient en vous disant « c'est un cadeau », tu dis « attends, c'est un cadeau plus quelque chose ». Non, non, c'est un cadeau. Le don, une autre définition de la justification, je vous dis que c'était l'action d'attribuer à l'homme la justice parfaite de Dieu. Une autre définition, la justification, c'est le don de la justice à l'homme. Il peut se présenter devant Dieu sans avoir l'arrière-pensée que quelque chose peut le condamner. Il est justifié. Je vais vous donner le dernier point dans un instant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre là. La plus belle et la meilleure façon d'honorer ce que Christ a fait pour nous, c'est de dire oui, merci. Lorsque j'essaye d'ajouter quelque chose à ce don, c'est comme si ce que tu as fait, c'est bien, mais ce n'est pas complet. Laisse-moi ajouter ça. Non, non, non. La meilleure façon d'honorer ce cadeau de la justification, oui, merci, je l'accepte. Oui, merci, je le crois. Oui, merci, je marche comme quelqu'un qui a été justifié et que la loi de Dieu ne... Oh. Lorsque vous marchez dans cette réalité d'être justifié, écoutez bien, si c'est Dieu qui vous a justifié, alors la loi de Dieu ne peut plus vous condamner. Waouh ! Quand vous marchez dans cette réalité que Dieu vous a justifié, sa loi ne peut plus vous condamner. Et lui a gardé entièrement sa droiture, sa justice, parce que quelqu'un d'autre a payé à notre place. Donc il ne l'a pas volé pour nous la donner. Quelqu'un a dû passer par la croix à notre place. Waouh ! Est-ce que vous comprenez le message de l'Évangile comme il est puissant ? Est-ce que vous comprenez que c'est une grâce et un cadeau que Dieu veut vous donner ? Mais le dernier point est tout aussi important que les trois premiers, hein. Pour l'instant, vous êtes d'accord pour dire que la partie humaine n'est pas engagée. Le sang, ben, j'ai pas fait grand-chose. La résurrection, ben, pas fait grand-chose. La grâce, eh ben, tu viens nous expliquer que c'était un cadeau, quelque chose qu'il venait de nous donner, donc, eh oui, ah, voilà le dernier point. Il faut l'accepter, il faut l'apprendre. Le dernier point de la justification que Paul enseigne, c'est la foi. Écoutez bien, les trois premiers piliers peuvent justifier potentiellement toute l'humanité. Que vous soyez âgé, moins âgé, que vous soyez européen, que vous soyez africain, ces trois premiers piliers peuvent potentiellement justifier tout le monde. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. En revanche, seuls ceux, écoutez bien, seuls ceux qui saisissent cette vérité par la foi sont réellement justifiés. Encore une fois, les trois premiers piliers impliquent que tous les êtres humains, hommes, femmes, africains, caucasiens, australiens, peuvent potentiellement être justifiés en Christ Jésus devant Dieu. Vrai ou pas? En revanche, cette justification n'est effective. Cette justification n'est que réelle. Cette justification n'est qu'authentique que pour celles et ceux qui l'ont pris par la foi. Alors ma question, attention, c'est une question piège. Quel est le pilier le plus important? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que c'est la résurrection? Est-ce que c'est la grâce ou est-ce que c'est la foi? Essayez d'extraire un pilier de votre chaise. Quel est le plus important? Les quatre. Les quatre. Les quatre. Ces quatre piliers nous justifient. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les quatre. Mais le dernier, il engage la partie de l'être humain. La meilleure illustration que je peux vous donner, c'est que si la justification c'est une grâce ou un cadeau que Dieu veut nous donner, la grâce c'est la main de Dieu. Cette justification, elle est dans la paume de sa main, elle vous est offerte. Pas parce qu'il l'a volée, parce que Christ a payé pour qu'on soit justifié. Et la foi, c'est la main de l'homme qui vient saisir la grâce qui est la main de Dieu. Et quand la foi de l'homme et la grâce de Dieu font la connexion, cette justification est téléchargée en vous et vous êtes justifié devant Dieu. Prenons le texte. Romains chapitre 5, le dernier pilier qui nous justifie, c'est la foi. C'est la foi. Je répète encore ça une fois. La grâce, c'est la main de Dieu. La foi peut aller chercher ce que la grâce de Dieu a pourvu. Si la justification selon le pilier 3 est une grâce, alors la foi peut aller la chercher. Encore une fois. Si la grâce, c'est la main de Dieu, et la foi, c'est la main de l'homme, et si dans la paume de sa main, il y a la justification qui est une grâce, il nous l'offre gratuitement, alors la foi peut aller chercher ce que la grâce de Dieu a pourvu. Donc cette justification, je peux la prendre par la foi. Vous êtes d'accord avec ça? Alors regardons un instant ici, Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Est-on donc justifié par quoi? Non mais alors Philippe, c'est le sang, c'est la résurrection, c'est la grâce ou c'est la foi qui nous justifie? C'est les quatre. Les quatre. Les quatre. Les quatre. Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons été justifiés par la foi? Nous avons la... Oula! Vous avez vu la suite? Nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment avoir la paix avec Dieu? Il est impossible d'avoir la paix avec Dieu sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut sans la croix et sans le sang. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? Alors, il y a plein de choses qui nous ont été données par grâce, mais vous êtes d'accord que cette justification, c'est pour ça que je l'ai mise en parenthèse ici, c'est une grâce. Donc, par ma foi, je peux accéder à cette grâce, je peux accéder à cette justification dans laquelle nous demeurons fermes. La plupart d'entre vous, vous avez déjà reçu Christ dans votre vie. Vous êtes réellement justifié dans l'esprit, mais est-ce que votre intellect et votre cœur l'a saisi? Dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, je demeure ferme dans cette vérité. Je demeure ferme dans cette doctrine. Je demeure ferme et enraciné et fondé dans ceci. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est le seul pilier qui engage la foi de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle du genre humain. Elle vous est offerte à un grand prix. Vous pouvez vous présenter devant Dieu, justifié. Vous pouvez vous présenter devant Dieu innocent. Vous pouvez vous présenter devant Dieu en toute confiance. Vous pouvez vous présenter devant Dieu en toute assurance. Ma question est-ce que tu l'as pris ? La seule chose pour nous, c'est de l'accepter et de le croire. Dieu ne te demande pas d'escalader le Mont Blanc pour être justifié. Il ne te demande pas de faire le Vendée Globe pour être justifié. Il ne te demande pas de faire Mike Horn pour être justifié. Il te demande juste, crois dans ce cadeau que je te donne. C'est la seule chose qui engage la partie de l'homme. Crois-le, reçois-le. Non, je vais croire, mais je vais ajouter si, je vais ajouter. Prends, et sois ferme là-dedans. Et quand il y en a un qui te dirait, est-ce que tu es vraiment justifié ? Tu dis oui, pas par mes œuvres, par le sang, par la résurrection, par sa grâce, et je l'ai reçu par la foi. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais Philippe, c'est un peu trop spirituel tout ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être justifié ? Ça sera ma conclusion. Vous voulez savoir ce que ça implique dans la vie chrétienne au quotidien ? Je peux finir avec ça ? Vous me donnez encore 5 minutes ? Combien de personnes me donnent 5 minutes ? Oula, 5, 10, 15, 20, 25, j'ai encore 30 minutes. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans la vie chrétienne ? Je ne vais pas prendre les textes, vous pouvez les noter. Je vais juste parcourir cette liste rapidement. Quand quelqu'un est justifié, mais comment on peut être justifié ? Mais je viens de vous expliquer pendant 40 minutes, 45 minutes. Parce que son sang a coulé, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce que c'est un cadeau de Dieu. Mais nous devons le prendre. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie chrétienne ? Romains 5, verset 9 nous dit « Le salut de la colère et la réconciliation avec Dieu ». C'est déjà pas mal. Quand on est justifié, qu'est-ce que je veux dire quand je dis le salut de la colère ? Paul explique aux Romains que la colère, c'est le juste jugement de Dieu. C'est le juste jugement de Dieu. Donc je suis sauvé du juste jugement de Dieu et je suis réconcilié. Ah ! Wow ! Rien que pour ça, on pourrait faire une célébration de louange jusqu'à 18h ce soir. On le vient de le lire en Romains 5, verset 1. Une autre réalité dans la vie du chrétien qui est justifié. Or, nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Waouh ! Vous êtes d'accord qu'avant de connaître Christ, j'avais pas la paix avec Dieu ? Mais le Esaïe encore, le châtiment, la sentence, la punition que nous méritions est tombée sur lui pour que nous ayons la paix avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'adore, c'est pour ça qu'on le loue. Si je m'arrêtais là, ce serait déjà bon, non ? Il nous dit ici que ceux qui sont justifiés, ils vont être glorifiés. En Romains 8. Écoutez bien. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Celui qui est justifié a un passeport retour dans la gloire éternelle de Dieu. De quoi avons-nous été déchus à la chute ? De la gloire de Dieu ? Le but de cette justification, c'est de nous ramener dans la gloire de notre Père pour l'éternité. Ça va, le pain est toujours frais ? Et dernièrement, lorsque Paul écrit sa lettre à Tite, il va dire que quand nous sommes justifiés, et il va préciser en Tite, à nouveau, pas par les œuvres, mais par la foi, Ça, c'est un autre texte que j'aurais pu prendre pour être justifié par la foi. Il va dire que ceux qui ont été justifiés par leur foi en Jésus-Christ seulement sont héritiers de la vie éternelle. Waouh. Waouh. Alors attends, Philippe, si je résume, ma partie à moi, c'est de le croire et de le recevoir. Et c'est ça. Peut-être certains parmi vous, vous n'avez jamais reçu Christ, vous n'avez jamais mis votre foi en Christ. Donc vous pouvez être justifié dans 2 minutes. Mais je pense que pour la plupart des personnes ici présentes, vous avez reçu Christ. Mais est-ce que ça vous donne un nouvel éclairage sur ce que ça veut dire d'être justifié? Et là, je vous demande simplement de le croire de votre cœur et de le vivre. Maître Goldie, tu me corriges. Mais si Dieu est la plus haute autorité, et si Dieu nous justifie, alors une autorité inférieure ne peut plus nous condamner. Alors j'ai une question simple. Qui veut être justifié? Qui veut être justifié? Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà justifié. Il faut juste renouveler son intelligence, méditer ces choses, l'accepter par la foi. Et peut-être vous êtes ici pour la première fois, vous n'avez jamais entendu l'évangile, vous n'avez jamais entendu parler de Jésus, vous ne savez pas en quoi ça consiste. Eh bien voilà, je vous ai présenté l'évangile ce matin. Que malheureusement, à la base, l'homme ne peut pas être justifié devant Dieu parce qu'il a transgressé sa loi. Mais Dieu a pourvu une solution pour que l'on puisse passer de condamné à justifié. Il y a 3 choses qui n'impliquent pas la partie humaine. C'est la partie de Dieu. La partie humaine, c'est juste de le recevoir par la foi. Alors Philippe, comment est-ce qu'on reçoit par la foi? Paul enseigne que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. La foi biblique est toujours à 2 places, dans le cœur et dans la bouche. Dans la bouche et dans le cœur, dans le cœur et dans la bouche. Dans la bouche et dans le cœur. Est-ce que vous dites ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez ce que vous dites? Mais si votre cœur le croit ce matin, vous devez le confesser avec votre bouche. Est-ce qu'on peut se lever? Je pense que ça va faire de mal à personne de faire cette bonne confession de foi, que nous avons été justifiés, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir un moment de révérence pour le Seigneur? Un moment de respect envers lui? Et alors que le piano va commencer à jouer, vous savez quoi? Peut-être que vous allez être content, mais je vais me taire. Je vais me taire. Pendant 2-3 minutes. Et vous savez, la vie aujourd'hui, elle va tellement vite que même à l'église, on doit aussi prendre le temps de... Père, je te prie que cette vérité, elle descende. Que cette vérité, elle descende dans les cœurs. Qu'on peut confesser ce que je vais confesser avec vous ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui m'a justifié. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Je comprends que c'est une grâce qui m'est offerte, que c'est un don qui est dans la paume de ta main. Par conséquent, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je reçois cette justification dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose que j'avais reçu avant la prédication que j'aimerais partager aussi. Pourquoi résistes-tu à Dieu? Pourquoi résistes-tu à Dieu? La Bible enseigne de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Mais pourquoi résistes-tu à Dieu? Pourquoi résistes-tu à sa volonté dans ta vie? Pourquoi résistes-tu à avancer avec lui? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas en eau plus profonde comme Ézéchiel avec lui? Jacques dit que Dieu, il fait grâce aux hommes et aux femmes humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Et j'ai juste cette question. Pourquoi résistes-tu à Dieu? Laisse-le façonner. Laisse-le façonner. Nous sommes l'argile, il est le potier. Et si tu arrêtes de lui résister, il va faire de toi un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Pas un vase d'usage vil. Un vase d'honneur. Laisse-le entrer. Laisse-le entrer. Est-ce que je peux juste savoir si quelqu'un veut laisser entrer Dieu de façon plus grande et plus intense? Yes. Hallelujah. Plus vous lui ouvrirez la porte, plus il s'approchera de vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Vous savez que même Dieu ne va pas à l'encontre de notre volonté. C'est à nous de soumettre notre volonté. Pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans nos vies et dans cette assemblée, dans le nom de Jésus.